Bonsoir. Donc ce soir, nous allons vous parler de fragilité, hein, puisque le thème c'est fragilité de l'homme, fragilité de Dieu.
Il faut parler plus fort après.
Il faut parler plus fort.
On sait pas trop comment l'allumer, mais je sais pas si.
Il faut parler un peu plus fort. Merci. Bon, on va déjà se présenter.
Donc moi je suis Élise Perrin, je suis médecin généraliste à La Roche-sur-Yon. Je travaille également auprès des SDF et des migrants et je suis actuellement en formation en soins palliatifs.
Voilà, Jean-Philippe Guillaumont, mon épouse est là, mariée depuis près de 46 ans, quand même. Nous avons 5 enfants, 2 enfants faits maison, et nous avons adopté 3 enfants handicapés mentaux, Jean-Baptiste, Timothée et Maria, qui ont maintenant 30 ans, 25 ans et 24 ans. Et depuis 1994, donc 25 ans, jubilé cette année, j'ai été ordonné au diaconat permanent dans l'église Saint-Louis, juste à côté. Nous sommes allés vivre pendant 20 ans à Lourdes et nous sommes revenus l'année dernière. Voilà. Alors, on n'a pas la prétention en une heure de vous parler de tout ce qui est de la fragilité. Ce serait beaucoup trop prétentieux. Mais ce qui nous intéresse, c'est de faire ressortir quelques points pour susciter des questions. Parce qu'autour de la fragilité, la réponse, ce n'est pas nous qui l'avons, c'est chacun de nous qui l'a en fonction de ce qu'il vit. Mais c'est important de savoir dans quelle fragilité on vit. Donc on a prévu un temps de conférence en 5 étapes. On va parler de la fragilité dans le monde, de la fragilité de l'homme, de la fragilité de Dieu. Puis ensuite, on abordera 2 petits points sur comment vivre la fragilité et surtout, quel message d'espérance au cœur de cette fragilité. Voilà. Et on va commencer, si vous en êtes d'accord, par un petit temps de prière. Alors, je vais vous passer un petit papier parce que c'est une prière que tout le monde ne connaît pas forcément, qui est dans ce qu'on appelle la prière des heures dans les Laudes. Parce que c'est une prière de l'Église qui dit bien ce que c'est que la fragilité et la fragilité avec Dieu. Alors, s'il y en a qui savent bien chanter, il ne faut pas hésiter à nous accompagner. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, Fils de la terre? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu si démuni, si grand, si vulnérable? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu que nul ne peut aimer s'il n'aime l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi? Qui donc est Dieu qu'on peut blesser si fort en blessant l'homme? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi?
Prolonger le chant.
Ah oui, il y a d'autres strophes, bien entendu. Mais si on n'avait fait que chanter, on n'aurait pas eu le temps pour la conférence.
Vous pouvez vous asseoir. On va commencer par la fragilité. En termes généraux, c'est quoi être fragile? Est fragile ce qui peut se casser? C'est tout simple, mais c'est souvent suffisant comme définition. Et cette fragilité, elle est inhérente au monde. Notre monde est fragile, notre univers est fragile. La vie, c'est du mouvement. La vie, ça bouge sans arrêt. L'univers se développe sans arrêt. Le monde n'arrête pas de tourner. Il est toujours en recherche d'équilibre. Et quand on est en recherche d'équilibre, ça veut dire qu'on est en situation de fragilité. Prenez un petit enfant. À partir du moment où il veut commencer à marcher, il faut qu'il mette un pied devant l'autre. Quand on est deux pieds bien installés, on ne bouge pas beaucoup. Si on veut se mettre en mouvement, il faut se mettre en déséquilibre. Et on a une certaine fragilité. D'ailleurs, le petit enfant, il est assez fragile quand il commence à essayer de marcher. Et nous, on est des parents qui ne sont souvent pas très sympas parce que, au lieu de lui donner la main tout le temps pour qu'il marche, on le lâche pour qu'il marche tout seul. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se casse la figure. Et on recommence, parce que la vie, c'est ça. La Terre, elle est fragile. La Terre, notre monde, notre globe, elle est fragile. C'est fragile, ça. C'est suspendu dans le vide. On est protégé par une couche d'ozone qui nous protège un peu des météorites qui arrivent, mais la Terre, elle est toujours en mouvement, elle est toujours fragile. Si le Soleil, il a un problème, la Terre va en avoir. On est dépendant. Les éléments sont dépendants les uns des autres. Et d'ailleurs, notre Terre, pour garder son équilibre, elle est obligée d'avoir des fois ce qu'on appelle, nous, des catastrophes. Des tremblements de terre, des tsunamis, des volcans. Et tout ça, c'est utile, c'est indispensable pour que notre Terre garde son équilibre. Avec toute la chaleur qu'elle a à l'intérieur, il faut qu'elle arrive à la diffuser. La fragilité fait partie de notre Terre. Et d'ailleurs, on le sent bien, notre climat est très fragile. La preuve, c'est qu'on prend conscience maintenant qu'on est en train de l'abîmer. Et puis la matière aussi, elle est fragile. Prenez par exemple un verre. Un verre, c'est dur à rayer un verre, mais c'est fragile. Du marbre, c'est très beau, c'est très dur. Mais vous donnez un coup sec dessus, ça casse. Par contre, vous prenez l'inverse, vous prenez du caoutchouc, là, c'est beaucoup moins fragile parce que vous tapez dessus, il absorbe une forme de résilience un petit peu. Hein, voilà. Et puis en plus, la matière, elle change, la fragilité de la matière change en fonction de son état. Plus elle est froide, plus elle devient fragile. D'ailleurs, qu'est-ce que l'on fait pour travailler l'acier? On le chauffe pour le rendre malléable. Ça fait partie aussi de notre état. Et puis notre nature, elle est fragile. Et heureusement qu'elle est fragile. On va vous donner deux exemples. La fable de la fontaine, le chêne et le roseau. Il y en a un qui ne se croit pas fragile et l'autre qui l'est, mais qui le sait. Et celui qui résiste mieux dans les grandes tempêtes, c'est le roseau. Et puis on a un exemple dans la nature absolument merveilleux sur la fragilité. Oh, c'est pas grand-chose, c'est l'œuf. Une coque d'œuf, c'est fragile, on peut la casser quand on va faire une omelette. Mais une coque d'œuf, elle doit être suffisamment résistante pour protéger le poussin, mais elle doit être suffisamment fragile pour que le poussin puisse s'ouvrir. C'est extraordinaire qu'on ait une nature qui permette de protéger jusqu'à un certain stade et qu'à un autre stade, hop, celui qui grandit à l'intérieur doit pouvoir sortir. Élise va vous parler d'autres fragilités.
Donc oui, le monde est fragile et c'est particulièrement visible dans sa fécondité. Il suffit de voir la taille d'une graine qui est semée en terre, qui tombe en terre et qui dépend complètement du terreau dans lequel elle est semée, des conditions climatiques ou de l'action de l'homme, pour germer et grandir et devenir peut-être un grand chêne ou un roseau. Et que dire de l'homme ? Sa fécondité est elle aussi fragile. Il faut qu'un seul spermatozoïde, plus petite cellule du corps de l'homme, rencontre à un moment propice l'ovule, plus grande cellule du corps de la femme, qui a maturé pour être fécondable, déjà présent mais non encore prêt. Et là, en un instant, une vie démarre. Je crois que vraiment, on peut s'émerveiller face à ce mystère, face au mystère de la vie. Et chaque jour, nous devrions nous émerveiller. C'est ce que j'essaye de faire quand je vois, par exemple, la merveilleuse mécanique du corps humain, qui, dans ses fragilités, déploie un génie pour y pallier. Par exemple, si un des deux reins ne fonctionne plus, l'autre va prendre le relais pour assurer la fonction de deux reins. Ou encore, quand une artère se bouche, il y a toute une circulation collatérale, une sorte d'itinéraire bis qui va se développer pour assurer le bon apport en sang aux membres. Donc le lien est tout naturellement fait vers notre deuxième partie, qui est que l'homme est fragile. En tant qu'être humain, nous sommes des êtres finis, limités. Nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Nos capacités intellectuelles sont limitées. Notre mémoire, notre intelligence, notre imagination et même notre volonté sont limitées. Ces limites font de nous des êtres vulnérables parce que, n'étant pas tout puissants, nous sommes exposés à la blessure, nous pouvons être blessés par l'extérieur. Ça, la vulnérabilité, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de l'expérience et de l'existence humaine. C'est vraiment quelque chose que nous avons tous en commun et que nous pouvons partager. C'est la vulnérabilité qui est un dénominateur commun de notre humanité. Dès les premiers instants de sa vie, l'homme est fragile. L'embryon puis le fœtus ont besoin du corps de leur mère pour se développer. Et on sait que les actions de la mère vont avoir des conséquences plus ou moins importantes sur l'enfant à naître. Des conséquences positives, celles d'une bonne alimentation, ou des conséquences plus négatives, par exemple si la mère consomme des toxiques comme le tabac, des médicaments, l'alcool, la drogue. Sa vie est soumise au choix de ses parents. Il ne peut naître que si ses parents font le choix de l'accueillir. Et quand bien même toutes ces bonnes conditions sont réunies, cette vie peut s'arrêter. Les premières années de la vie de l'homme sont marquées par une extrême dépendance à l'autre. On le voit dans notre vie de nourrisson. Le nourrisson a besoin particulièrement des soins de son entourage pour vivre ou pour survivre. Certaines fragilités sont déjà présentes dès la naissance, mais certaines situations peuvent survenir tout au long de la vie et nous fragiliser davantage. On peut penser par exemple à la maladie, au handicap physique, sensoriel, mental, aux fragilités ou aux maladies psychiques, à la survenue d'un deuil, à des blessures sociales, l'isolement social, l'isolement, voilà, le chômage, la pauvreté. Certaines addictions ou emprises psychologiques peuvent également nous rendre plus fragiles encore, plus vulnérables, puisque ça a un retentissement physique, psychique, social et spirituel, et même sur notre volonté et notre libre arbitre. La perte de nos capacités ou de nos facultés nous font perdre en autonomie. Le concept de fragilité est particulièrement développé en gériatrie. Une fragilité physique, mais également une fragilité psychique. La fragilité physique, tout d'abord, on sait qu'un événement médical intercurrent, comme par exemple une infection des poumons, va avoir des conséquences plus importantes à court, moyen ou long terme chez des personnes plus âgées par rapport à des personnes plus jeunes. Quelqu'un de 100 ans qui va avoir une infection des poumons, ça va le fragiliser davantage que quelqu'un qui a une infection des poumons à 20 ans. Fragilité physique, donc, mais également fragilité psychique. Et je vais citer, je crois, un philosophe qui dit « Plus on est vieux, plus on s'approche de ce que l'on sait devoir arriver. Plus on est vieux et plus on s'approche de ce que l'on sait devoir arriver. Plus l'angoisse de la mort du sujet âgé s'avère importante et incomprise de ceux qui pensent que la mort du sujet âgé est normale, facile. »
Je reprends un des éléments qu'a évoqué Élise, c'est la fragilité sociale. Il y a des situations sociales qui nous mettent en grande fragilité. On a un peu l'expérience avec nos enfants handicapés mentaux. Ils étaient dans une association qui s'appelle l'ADAPEI. ADAPEI, ça veut dire Association départementale d'amis et de parents d'enfants inadaptés. C'est très révélateur, parce que c'est l'enfant qui est inadapté. On est toujours dans un système, c'est notre système social en général, qui dit c'est vous qui êtes inadapté à la société, c'est pas la société qui est inadaptée à vous. Et donc, comme vous êtes inadapté, c'est à vous de prouver que vous êtes inadapté, que prouver que vous êtes handicapé, que prouver que vous ne pouvez pas faire ceci, cela. Et vous êtes sans arrêt à devoir justifier de votre fragilité. C'est très parlant, ça, quand même. En reprenant même une parole du Christ, on devrait dire que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Non. Le sabbat, il est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. La société, elle devrait être faite pour l'homme et non pas l'inverse. C'est un peu les dérives des systèmes au bout d'un moment qui sont devenus tellement proéminents par eux-mêmes qu'ils en oublient la source de leur justification. Ils étaient là pour aider la personne et après c'est la personne qui a du mal à se justifier. Et ça les met en fragilité, mais on a la même chose par exemple pour une personne qui est en fragilité sociale, qui a du mal, par exemple, à lire, à écrire, et qui va devoir faire des documents, des dossiers, pour pouvoir justifier, pour avoir des aides. Autrement, il ne peut pas vivre. On a, par exemple, ce qui met aussi en grande fragilité sociale, c'est tout ce qui est le travail intérimaire, c'est tout ce qui est les CDD, qui ne permettent pas de construire. C'est l'instabilité professionnelle. C'est également tout ce qui est autour du logement. Aujourd'hui, vous n'êtes personne si vous n'avez pas de logement. Parce que vous avez besoin de justifier d'un logement pour pouvoir justifier d'une aide. La spirale est souvent infernale. Et ça fait tomber dans les gens dans beaucoup de fragilité. Et on a des logements précaires ou des logements insalubres. Et même, on a une grande fragilité dans notre société. C'est la fragilité qui est autour des familles. Parce que la famille qu'on connaissait, ce qu'on appelait la famille nucléaire, le père, la mère et les enfants... il y avait une certaine unité, une certaine cohérence, une certaine unité sociale qui est maintenant, hélas, perdue pour les personnes qui élèvent sur leurs enfants ou quand c'est des familles recomposées ou des enfants qui ont été dispersés, des familles séparées, des familles donc monoparentales. Ça rajoute des fragilités. Quand en plus vous avez une fragilité sociale et une fragilité familiale, ça devient une vraie galère pour les personnes.
Les soins médicaux visant à nous soigner peuvent également nous fragiliser. Ça ne me fait pas plaisir de vous dire ça, mais c'est quand même le cas. Il faut savoir que en grec, enfin, le mot pharmacie vient du grec pharmakos, qui signifie à la fois remède et poison. Et on est souvent amené à prescrire un médicament et un second médicament pour contrer les effets indésirables du premier médicament. Certains médicaments prescrits dans un but louable, je vous le rappelle, peuvent également induire des dépendances. Par exemple, pour lutter contre la douleur ou contre les troubles du sommeil, on va prescrire de la morphine ou des somnifères qui vont amener une dépendance et rendre l'homme plus fragile. Et de la même façon, j'espère qu'il n'y a pas de chirurgien dans la salle, mais les chirurgiens, pour bien nous soigner, sont parfois amenés à nous blesser entre guillemets, davantage pour soigner et atteindre l'organe malade. Par exemple, un organe dans le ventre, il faut ouvrir le ventre, même si les technologies permettent maintenant de plus ouvrir grand le ventre, pour pouvoir aller soigner l'organe malade.
Et puis je voudrais reprendre la notion de l'œuf pour apporter une autre fragilité qui est ce qu'on pourrait appeler une fragilité politique. Un peu bizarre, hein ? Mais regardez l'œuf. Si la coque est fragile, celui qui est à l'intérieur va pouvoir casser pour sortir, pour grandir. Je dirais que c'est un peu la démocratie. La coque est suffisamment fragile pour qu'on puisse taper dessus, pas forcément toute la casser, mais pourquoi pas la casser pour pouvoir grandir, parce que c'est le rôle de la démocratie, c'est de nous faire grandir. Dans un système totalitaire, la coque est tellement dure parce qu'elle est là pour vous protéger, et tellement bien vous protéger, que vous ne pourrez plus la casser de l'intérieur pour grandir. Vous voyez, ces éléments de la nature, ils nous donnent aussi une image des fragilités que l'on peut vivre dans nos différentes vies, même politiques. Alors, il y a la politique, mais il y a aussi le Seigneur, Dieu. Lui, il n'est pas fragile. Il est tout puissant. Il est invulnérable. On ne peut pas le détruire. Mais lui a choisi de se faire fragile. Il a choisi de se faire humain dans notre fragilité humaine. Il y a un théologien qui s'appelle Maurice Handel qui disait « Dieu est amour, il ne peut qu'aimer. Et quand l'amour n'est pas aimé, il meurt. Il est soumis à nos blessures. Il soumet ses blessures à nous et nous pouvons le tuer. » Parce que l'amour ne peut pas empêcher l'autre de nous faire du mal. Autrement, il n'y a plus d'amour. C'est terrible de dire ça. Mais l'amour va jusque-là. Il va jusqu'à se donner tellement. C'est ce que dit Marthe Robin, que certains connaissent peut-être. Elle dit « Dieu se donne, il ne pouvait donner plus, mais il n'a pas voulu donner moins. » L'amour a dépassé les paroles. On perd des fois cette notion que l'incarnation, c'est quand même un don extraordinaire de fragilité de quelqu'un qui était invulnérable. C'est quand même extraordinaire. Et il y a bien que dans cette religion du don et du sacrifice que ça peut se trouver. Et puis on le voit même dans la vie de Jésus, on le voit souvent. Mais il y a un endroit, il y a un moment où on le voit, qu'on va fêter bientôt. Ce Dieu Tout-Puissant qui a fait des miracles, marché sur l'eau, il a guéri des lépreux, il a multiplié les pains, il en a fait des miracles. Il avait des paroles de force et les gens le suivaient. Il a choisi des apôtres qui étaient vraiment, entre guillemets, des pauvres types comme nous, qui avaient des grandes fragilités. Il n'a pas choisi les pharisiens, les théologiens, les gens les super doués. Il a choisi des pécheurs. Il a choisi un publicain. Enfin, et le jour du jeudi saint, ce jour-là, il retire sa tenue, il se met en situation d'esclave pour laver les pieds de ceux qui allaient s'en aller. Parce que quand le lendemain il s'est retrouvé devant Pilate, il était seul. Il s'est mis à leur laver les pieds, ça veut dire qu'il s'est mis en situation de fragilité extrême, il dépendait d'eux. Et d'ailleurs, Pierre l'a renié et Judas l'a trahi. C'est pour montrer à quel point notre Dieu est capable d'aller dans la fragilité extrême de notre humanité, pour nous montrer que dans cette fragilité, l'amour de Dieu peut nous faire renaître.
Alors dans la Bible, on voit plein d'exemples d'hommes fragiles, de fragilité. C'est notamment le cas dans l'Ancien Testament, mais aussi dans le Nouveau Testament, quand on voit que Dieu utilise des prophètes fragiles pour annoncer son message. On peut penser par exemple à Abraham, qui était âgé, à Moïse, qui était bègue. C'est pourtant lui qui va aller devoir parler à Pharaon, à David qui commettait des meurtres, à Jonas qui le fuyait tout le temps, et même à Zachée qui était trop petit. Donc il les utilise aussi avec leur faiblesse pour porter un message au monde. Comme tu le disais, Jean-Philippe, nous chrétiens, nous croyons que Dieu s'est incarné. Nous croyons en l'incarnation de Dieu, en l'incarnation du Verbe. Il a effectivement rejoint, lui, le Dieu Tout-Puissant, rejoint notre humanité et endossé nos fragilités. Et je crois qu'il a voulu le faire pour parler notre langage. Parler notre langage avec des mots, je pense notamment au sermon sur la montagne et les béatitudes, où Jésus parle de certaines fragilités, persécution, affliction, ou certaines fragilités aux yeux du monde, douceur, miséricorde, pauvreté de cœur. Et plutôt que de nous dire « malheureux êtes-vous », il nous dit « heureux êtes-vous ». Heureux êtes-vous de porter ces fragilités. Il a voulu donc rejoindre notre humanité pour parler notre langage, mais y compris au-delà des mots. Interrogeons-nous. Quel geste, quel acte pourrions-nous poser pour montrer à quel point nous aimons ce que nous aimons et même au-delà ce que nous n'aimons pas ou pas assez. C'est bien de donner sa vie pour que l'autre vive. Avant de passer la parole à Philippe, nous allons parler d'église fragile et je vais vous citer une phrase que le Christ a dite à Sainte Catherine de Sienne. J'aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui est nécessaire spirituellement ou matériellement, mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre.
Oui, parce qu'on voit bien en ce moment, notre Église est rentrée dans une période de grande fragilité. Et la question n'est pas de vivre cette fragilité, parce que forcément, l'Église, au long des siècles, en a vécu des fragilités. La question, elle est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de cette fragilité ? Est-ce qu'on est Est-ce que ces scandales nous étonnent ? Qu'est-ce qui fait que ces scandales arrivent ? Qu'est-ce qui fait qu'on est dans une sécularisation des fois religieuse ? Qu'est-ce qui fait que des fois notre cléricalisme est complètement débordant ? Je crois que le problème de l'Église, c'est que quand elle se sent trop forte, elle perd le sens de Dieu. L'Église a besoin de se recevoir. Si elle ne reçoit pas sa vie, et donc en même temps donc sa fragilité, elle risque de passer à côté, puisque dans un rythme de sécularisation, elle va se croire toute puissante. Et je crois que la puissance de l'Église ne peut se vivre que dans la faiblesse. Comme on dit parfois, on est face au mystère d'une Église qui est sainte et pécheresse, donc fragile. Et je trouve que c'est une grande chance pour l'Église, non pas d'avoir ces scandales, mais de reconnaître sa fragilité et d'invoquer le Seigneur pour la traverser avec elle. Je peux l'illustrer avec la deuxième lettre aux Corinthiens, au verset 4. Ce trésor, nous le portons dans des vases d'argile. Ainsi, on voit bien que cette puissance extraordinaire appartient à Dieu et ne vient pas de nous. L'Église doit toujours se recevoir du Seigneur. Maintenant, on va aborder le troisième point, qui est de vivre la fragilité, parce qu'elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à cette fragilité ? Alors, on peut vouloir changer la situation. Je n'en veux pas de cette fragilité, donc je vais changer la situation. Et j'en suis capable, j'ai des moyens. D'ailleurs, on le voit maintenant avec tous ces fantasmes de transhumanisme. On a les moyens, on va le faire, on va arrêter d'être fragile, on va être tout puissant. Mais pour quelle nouvelle situation ? Comme le disait Élise, on a des médicaments, on a des effets secondaires. Eh bien, on met en place des moyens, mais quels vont être les effets ? Est-ce qu'on est capable de les maîtriser ? Ce n'est pas sûr. On est parfois des apprentis sorciers. Alors, on peut la changer, mais on peut aussi, des fois, la subir. C'est la volonté de Dieu que je vive ça, donc je subis la situation. Un point, c'est tout. Je ne bouge pas, je ne me révolte pas, je subis. Et je crois que le Seigneur, s'il nous a confié ce monde, s'il est venu nous sauver, c'est pour que l'on transforme ce monde. Mais pas avec nos petits biceps, mais qu'on le transforme en son amour, c'est-à-dire qu'on se reconnaisse et qu'on aide le monde à reconnaître sa propre fragilité. Le combat qu'a mené Jésus pour la vie, ça doit être le nôtre également. On peut aussi, au lieu de subir, au lieu de changer, on peut aussi fuir. Ça, c'est quand même bien pratique. On peut s'évader dans le virtuel, on peut s'évader dans les drogues, dans la pornographie, dans toutes sortes d'addictions. Et puis on peut, alors ça arrive souvent, on le voit parfois dans le monde, on voit que on ne veut pas regarder les choses en face, alors on est toujours en train d'éviter, en train de prendre d'autres chemins pour essayer de vivre autre chose. Et on finit toujours par retourner au point de départ. Et puis on dit qu'on n'est pas concerné. Ce problème-là, le problème de la fragilité de l'autre ne nous concerne pas. Je reste dans ma bulle, je reste bien tranquille, bien confortable. Puis je peux aussi changer le sens de la fragilité. Je vais donner un exemple qui risque des fois de ne pas plaire, parce que ça nous donne bonne confiance, bonne conscience. Donner un exemple, l'interruption volontaire de grossesse. C'est un droit pour les femmes. Comme c'est un droit pour les femmes, ça biaise complètement la vie du petit. La vie de la personne n'est pas première. Ce qui est première, c'est mon droit. Vous voyez, on a biaisé le sens pour se donner bonne conscience. Et on va avoir forcément la même chose avec la PMA, bientôt la GPA et tout le reste, parce qu'on pourra le justifier pour biaiser le sens et ne pas le regarder en face. Autre choix, bien sûr, face à la fragilité, c'est d'accepter de traverser l'épreuve. La passion que l'on va vivre bientôt, Jésus ne l'a pas évité, il a traversé l'épreuve. Je crois que c'est important qu'on apprenne à affronter l'épreuve avec la grâce de Dieu, parce que nous-mêmes, on n'y arrive pas. Ça ne retire pas la fragilité, mais ça nous aide à en faire une ouverture sur un autre monde à venir, sur une autre situation. On ne sait pas laquelle, elle ne nous appartient pas. Mais ce que l'on a, c'est à se mettre en face avec le Seigneur. Et pour se mettre en face avec le Seigneur, il faut d'abord accepter nos propres limites, nos propres impossibilités. Je me souviens d'une petite anecdote. Jean-Baptiste, le premier enfant trisomique qui est arrivé dans la famille, il avait 9 mois, il pleurait toutes les nuits. Moi, je travaillais en usine, donc tous les matins, il fallait se lever. Et quand votre gamin, il a pleuré, ça devient fatigant, usant. Et un matin, à 3 heures du matin, j'étais en train de le bercer dans le couloir parce qu'il pleurait. Et j'ai commencé à le secouer en disant « faut que tu arrêtes, j'en peux plus ». On l'avait adopté pour s'occuper de lui et j'étais en train de devenir maltraitant. J'étais au fond de ma fragilité, j'en pouvais plus. Et il faut à un moment accepter ses limites et ne pas se prendre pour Dieu. Et puis regarder en face nos propres fragilités. On a quelque chose qui est important et surtout aujourd'hui, dimanche de la joie, on a une chose qui est encore plus importante, c'est qu'on a la possibilité de vivre la confession face à nos fragilités humaines. Et puis aussi quelque chose d'important, peut-être très important, qu'on ne dit pas assez souvent, il faut que l'on accepte l'impuissance de Dieu. Il faut que l'on accepte en nous l'impuissance de Dieu. Dieu, il peut tout faire. Si je le prie et qu'il dit, si je le prie pour que Jean-Baptiste ne soit plus trisomique, je ne suis pas sûr qu'il le fasse. Il est impuissant par rapport à la nature, il est impuissant par rapport à nous, par rapport à notre liberté. Si Jean-Baptiste est trisomique, c'est qu'il a peut-être une mission, il a quelque chose à nous faire comprendre. Nous faire comprendre d'abord ce que c'est que la fragilité. Chacun a quelque chose à nous montrer dans sa fragilité. Et c'est l'ensemble de ces fragilités vécues en commun, partagées en commun, qui font que notre Église aura une grande richesse parce qu'elle sera reçue. Je crois que ça, c'est très important parce que Dieu ne peut pas aller contre ma liberté. Si je ne veux pas de Dieu, si je ne veux pas, il ne peut rien faire. Apocalypse 3, verset 20, je crois. « Voici que je me tiens à la porte et que je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai pour dîner avec lui, lui avec moi et moi avec lui. » Le Seigneur ne peut pas entrer si on n'ouvre pas la porte. Et puis, pour traverser l'épreuve, il faut trouver la force dans la fragilité. C'est-à-dire que la fragilité, on peut la regarder comme une occasion de grandir, comme une occasion d'aimer davantage, comme une occasion surtout de changer mon regard sur l'autre en accueillant la fragilité de l'autre.
La fragilité des autres nous convoque à prendre soin des plus fragiles et nous appelle vraiment à ça. Chacun a besoin d'être soigné, mais la personne plus fragile a besoin d'une attention particulière pour être soignée, et il nous faut vraiment prendre en compte leur fragilité pour apporter un soin adapté à sa situation. Je parle des soins médicaux, mais je pense que le soin, de façon plus générale, c'est l'attention portée à l'autre. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on s'interroge sur le regard que nous posons sur l'autre. Est-ce un regard qui le fait grandir, qui lui fait comprendre quelle est la valeur inestimable de sa vie, qui lui fait saisir ça et qui lui fait saisir quelle est sa dignité en tant qu'homme. Et en retrouvant la fidélité dans l'autre plus fragile, en retrouvant, pardon, la dignité dans l'autre plus fragile, c'est finalement ma propre dignité en tant qu'homme qui m'est rappelée. Donc prendre soin, c'est une chose, mais parfois on va vouloir corriger ou augmenter.
Voilà. Une petite anecdote qui m'avait frappé, c'était Marie-Caroline Schur, qui est professeure d'anglais à Paris, et qui est en fauteuil roulant, qui a une maladie invalidante très forte, donc elle a besoin de soins complètement. Et par contre, elle a toute sa tête. Elle nous partageait au pavillon des personnes handicapées à Lourdes. Elle nous partageait quelque chose qui me paraissait très fort par rapport à la fragilité. Elle me disait, moi, j'ai besoin de soins. Tous les jours, il faut me faire ma toilette. Je ne peux pas me lever. Donc, je dépends complètement des autres. Il m'a fallu du temps pour accepter d'offrir mon corps aux soins de l'autre. Parce qu'on est toujours dans la situation où on doit faire du soin à l'autre. Mais est-ce que l'autre, il est en situation d'accueillir le soin que je lui apporte? C'est pas si évident que ça. Surtout quand les personnes ne peuvent pas s'exprimer. Là, elle, Marie-Caroline, l'exprimait en disant « Un jour, j'ai fait le pas d'offrir mon corps aux soins qu'apportaient les autres. » Le soin, il va dans les deux sens.
Par rapport à la notion de dignité que j'évoquais tout à l'heure, je pense que vraiment, ça c'est une des fécondités des plus fragiles dans notre monde. C'est vraiment montrer la dignité de l'homme, voilà, la montrer, la rendre visible. Donc je le disais, voilà, prendre soin, mais on peut vouloir aussi corriger ou augmenter l'être humain. Les progrès technologiques nous permettent aujourd'hui de réaliser des choses jusqu'alors inconcevables. greffer des organes, modifier le génome humain et parfois pouvoir gommer ou effacer, entre guillemets, les anomalies, augmenter les capacités sensorielles, intellectuelles, physiques, je pense au film Lucie pour ceux qui l'ont vu, ou encore remplacer des membres manquants. Sans cesse, la science médicale repousse les limites. Et certains le font dans un but, dans une recherche effrénée de vouloir effacer ces limites. Et il faut bien reconnaître que la limite entre réparation et augmentation est vraiment très fine. Les avancées technologiques nous conduisent à de nouvelles questions éthiques, jusqu'alors inconcevables. Il ne s'agit pas de mépriser la technique ni de l'absolutiser, mais de lui donner sa juste place sous l'autorité de la conscience. Et il nous faut sans cesse, dans chaque acte que nous posons, nous rappeler que la science médicale est au service de l'homme et non l'inverse. L'illusion serait de croire, par exemple, que la science peut éradiquer toute souffrance. Certains repères anthropologiques sont remis en question, plus ou moins consciemment. Et nombreux sont ceux qui se servent de la fragilité comme un prétexte à la toute-puissance, c'est-à-dire qu'ils veulent imposer sur l'autre une façon de voir comment devrait être l'homme, une façon de rendre l'homme tel qu'il le voit. Et on peut se poser la question de savoir si c'est vraiment libérateur ou si, au contraire, c'est aliénant. Le philosophe Bertrand Vergely déclarait « Plus le post-humanisme et le transhumanisme déclarent se délivrer de l'homme, plus ils mettent en place un esclavage de celui-ci à l'égard de lui-même. Un esclavage de celui-ci à l'égard de lui-même. L'homme ne se réduit pas à un assemblage de codes génétiques, de données biologiques. Non, il est bien plus grand que cela. Il est à l'image et à la ressemblance de Dieu.
On peut être aussi face à la fragilité, être tenté d'exclure. Parce que j'ai peur de ce que je ne peux pas maîtriser. Comme je ne le maîtrise pas, je le détruis, je le supprime. Celui qui me dérange, celui qui me gêne, on l'a eu pendant la Seconde Guerre mondiale avec la Shoah, on l'a eu en partie avec l'interruption volontaire de grossesse, et on l'a aussi avec les recherches euthanasique maintenant. Parce que tous ces éléments renvoient à notre propre fragilité. Si on ne peut pas l'accepter, si elle devient insupportable pour nous, il vaut mieux que je détruise celui qui est fragile. Comme ça, je ne parle plus de fragilité. Il y a une autre étape qui est faisable aussi de temps en temps, enfin qui se fait parfois, c'est de choisir de gommer la différence. Faire en sorte que la différence n'existe plus. Par exemple, pour des personnes trisomiques dans certains établissements, il faut qu'ils vivent exactement la même chose que s'ils n'étaient pas trisomiques. Vous pouvez vivre avec qui vous voulez, faire des enfants si vous voulez. C'est pas grave. Tout ça, vous avez le droit de faire comme les autres, exactement comme les autres. Et quand on est dans cette situation-là et qu'on gomme la différence, on arrive à essayer de gommer la fragilité en disant « elle n'existe plus ». J'ai fait comme si elle n'existait pas. Et puis on peut aussi, et c'est très important, quand on est face à la fragilité, essayer de ne pas rester seul. Le drame pour les gens fragiles, c'est d'être tout seul dans leur fragilité. Nous, on a l'expérience d'être en communauté foi et lumière, par exemple, où il y a des groupes de partage qui existent. Il y a pour les personnes malades psychiques des relais Lumière Espérance, Il y a même sur le diocèse ici, Foi et Vie, ou la Fraternité des personnes handicapées, les pèlerins de l'eau vive pour ceux qui ont des addictions. Il existe des mouvements qui permettent aux gens de ne pas rester seuls dans leur fragilité.
La fragilité est également un véritable appel au don. Et je rappelle juste la phrase que le Christ a dit à Sainte Catherine de Sienne, « J'aurais bien pu doter chacun de tout ce qui lui est nécessaire, spirituellement ou matériellement, mais j'ai voulu que l'un ait besoin de l'autre. » Et donc dans nos fragilités, dans nos manques, nous sommes vraiment appelés à donner à l'autre, mais également, vous l'avez bien compris, à savoir recevoir de l'autre. Et c'est vraiment la condition pour être vraiment en relation avec l'autre sans esprit de domination et dans une relation qui est moins ou n'est pas asymétrique. Puisque ce que la force ne peut pas, la fragilité le permet. Elle est présence sans menace sur l'autre. Elle est présence sans menace sur l'autre et c'est la condition pour vraiment être plus présent aux autres. Toute véritable rencontre, toute véritable relation et présence à l'autre fondée sur le renoncement à la toute-puissance pour ne pas s'imposer à l'autre ou pour que l'autre ne s'impose pas à nous. Et je pense, par exemple, dans les relations avec les personnes qui ont un handicap dans la relation, dans la communication. Si on cherche à communiquer avec eux par nos mots, puisque c'est un des seuls moyens qu'on connaît et qu'on maîtrise, c'est très difficile d'entrer en relation. Et j'ai vraiment remarqué qu'en fait, c'était l'autre qui nous apprenait comment entrer en relation avec lui, par des gestes, par des regards. Et voilà, ça m'oblige, moi, à ne pas être toute puissante et à recevoir de l'autre le moyen d'entrer en communication avec lui. Donc ça nous demande plus de simplicité et d'authenticité. Et là aussi, je pense que c'est une des fécondités des plus fragiles dans notre société qui est parfois tentée de croire que leur vie est inutile ou stérile.
Pour illustrer cet appel au don, cet appel à la présence, je vais vous citer une petite phrase de Jean Vanier, certains connaissent, qui a fondé l'Arche. Et Foi et Lumière aussi, en ayant vécu avec des personnes handicapées mentales à Trouville. Il disait, il dit toujours, une rencontre est chose rare et merveilleuse. Présence d'une personne à une autre, présent l'un à l'autre, la vie s'écoulant de l'un vers l'autre. Puis on a aussi des textes bibliques qui nous invitent au don, à la présence. Je ne vais pas tous les nommer, mais vous en connaissez certains, peut-être Matthieu 25, où ça se termine, ce qu'on appelle le jugement dernier, qui se termine par « Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Et au numéro 45, « Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi non plus que vous ne l'avez pas fait. » Puis on peut reprendre aussi Saint Paul dans la lettre aux Corinthiens. « Ce qui est folie de Dieu est plus sage que les hommes, et ce qui est faiblesse de Dieu est plus fort que les hommes. » Voilà, l'invitation, elle est claire. Elle est claire et il faut briser notre coquille d'œuf pour entrer dans le monde de Dieu. Comme le disait, alors j'avais marqué que c'était Jacques Prévert, mais je crois que c'est pas lui, c'est quelqu'un d'autre. C'était « Bienheureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. » Je crois que c'était Audiard qui disait ça dans un film. « Bienheureux les fêlés, parce qu'ils laissent passer la lumière. » Alors je vais vous citer aussi un texte qui est remarquable, qui est du docteur Laplanche, qui était psychiatre à l'Arche, parce que je crois qu'il résume bien comment changer son regard pour faire du bien. La vie de famille avec les personnes handicapées est un terrain formidable pour apprendre à se connaître. pour peu que l'on joue le jeu sans tricher et que l'on accepte de se remettre en cause avec humilité mais sans humiliation. On peut tricher quand on vient travailler quelques heures par jour. On peut se mépriser, contrôler la situation, prendre de la distance et prendre ses distances, faire son travail et gagner sa vie. On peut le faire sans communiquer, sans vraiment échanger, sans rien partager et rester intact, ne pas changer d'un pouce, ne pas évoluer d'un millimètre. Mais quand on est plongé 24 heures sur 24 dans le bouillon, on ne peut pas tricher longtemps. Les personnes handicapées sont des maîtres exigeants. Elles sont comme les enfants, elles demandent vérité, authenticité, simplicité. C'est le sérum de vérité, et je crois qu'au bout de quelques temps, nul ne peut y résister. Quelle richesse et quel don nous fait la personne handicapée en nous obligeant à faire sauter les défenses qui nous enferment dans nos forteresses intérieures, en nous poussant à enlever nos vêtements de protection et à montrer nos âmes à nu, avec toutes nos faiblesses, nos limites et nos besoins. Et nous nous retrouvons tous des enfants sous le regard bienveillant de notre Père Céleste.
C'est vrai que les plus fragiles nous obligent à un certain dépouillement pour nous donner. Mais rappelons-nous que Dieu est assez puissant pour nous donner toute grâce en abondance. C'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lettre aux Corinthiens. Afin que nous ayons en toutes choses et toujours tout ce qu'il nous faut, et même que nous ayons en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Alors après avoir dit tout cela, quand même, on voulait vous dire avec Jean-Philippe qu'il ne fallait pas glorifier la fragilité. Ce n'est pas un absolu, elle n'a pas de valeur en soi. Elle n'est pas à rechercher, cette fragilité, mais simplement savoir qu'elle existe et savoir nous reconnaître fragiles et l'accepter. Nous reconnaître vulnérables ne doit pas être une source d'isolement ou d'aliénation, mais bel et bien un moyen de nous ouvrir véritablement à l'autre et surtout de laisser agir le Christ par et en nous. Nous allons terminer cette conférence sur une petite note d'espérance. Oui, nous sommes des êtres limités, fragiles, vulnérables. Je crois que seule notre capacité d'aimer et notre désir peuvent être illimités, infinis. Demandons vraiment au Seigneur de nous enseigner comment aimer. Comment l'aimer, lui, le Dieu trinitaire? J'insiste sur le Dieu trinitaire puisque dans la relation, Dieu est amour. Et vraiment, il y a un élan d'amour perpétuel, un mouvement perpétuel toujours tourné vers l'autre. Donc comment l'aimer, lui, le Dieu trinitaire? Et ensuite, mais tout aussi important, c'est Jésus qui nous le dit, comment aimer l'autre en vérité et gratuitement. Avançons vraiment dans la confiance pour qu'au-delà de nos manques, de nos faiblesses, notre capacité d'aimer grandisse toujours davantage et que Dieu attise en nous ce désir. Gardons l'espérance et l'assurance, la certitude que c'est à travers nos faiblesses que Dieu agit. Ayons l'audace, véritablement, de nous laisser bousculer par la fragilité des autres et dans notre propre fragilité. C'est ambitieux, exigeant. Ça nous demande un dépouillement et de nous laisser vraiment bousculer dans nos repères. Mais c'est un chemin d'émerveillement et de croissance. En se faisant petit, on grandit.
Quelques citations pour me donner de l'espérance encore. Maurice Endel, je reprends ce théologien suisse. Dieu ne pourra jamais cesser de nous aimer. L'homme est l'espérance de Dieu. Très beau, ça. L'homme est l'espérance de Dieu. Jean Vanier, pour le reprendre, avait écrit un livre qui s'appelle « Le corps brisé ». En voilà un petit extrait qui est très parlant. « Si tu marches avec Jésus sur ce chemin de fragilité, il te conduira vers le pauvre, le faible, l'isolé, l'opprimé, sans peur ni désespoir, sans colère ni révolte, sans théorie ni solution toute faite, sans culpabilité ni sentiment d'impuissance, pour te faire goûter à la paix qui jaillit de la communion des cœurs. Jésus te révélera le sens caché de la souffrance et des ténèbres et la manière dont la joie jaillit de ce qui est blessé et brisé. Il te révélera qu'il est lui-même caché dans le pauvre, le faible et l'opprimé. Il te révélera même qu'il est caché dans le pauvre, le faible et l'opprimé qui est en toi. Il te révélera comment redécouvrir, renouveler, reconstruire et recevoir cette communion d'amour et de fidélité qui est à l'origine et à la source de toute vie, de toute unité et de toute paix. » Et il ajoute un peu plus loin, « La souffrance, ce n'est pas d'être handicapé, c'est de ne pas se sentir aimé inconditionnellement. » Dernier mot, on va le laisser à Martin Stephens, qui est un jeune philosophe, d'ailleurs dont la sœur est prisonnière, c'est peut-être pour ça. Il a des phrases si belles. Il reprend les béatitudes. « Heureux êtes-vous si... » On l'entend ici, la joie est première. Car nous dit Jésus, « Si tu vis en moi et de mon amour, alors quoi qu'il t'arrive désormais, cela viendra de moi. Ce n'est pas la souffrance qui mène à la joie, mais la joie reçue de Dieu qui embrasse toute souffrance. Ce n'est pas la souffrance qui mène à la joie, mais la joie reçue de Dieu qui embrasse toute souffrance. » Merci.
The end.